Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Se raccrocher à des signes d'espoir, à quelques chiffres encourageants, alors que démarre aujourd'hui la troisième semaine de confinement et qu'on est encore loin d'en avoir terminé. Bien sûr, le bilan reste terrible. 418 décès hier encore. Les hôpitaux du Grand Est sont toujours saturés, les médecins débordés. Mais dans le Haut-Rhin, depuis ce week-end, les appels au SAMU sont moins nombreux, les admissions aux urgences moins fréquentes. De quoi peut-être entrevoir un léger début d'accalmie. Yannick Collant.
Ici dans le Haut-Rhin, c'est la première petite lueur d'espoir. Les médecins n'osent pas vraiment y croire, mais ils se demandent s'ils n'ont pas dépassé le pic de l'épidémie. Il y a un tassement des appels au SAMU et depuis ce week-end, les arrivées aux urgences de Colmar sont en légère baisse, notamment les cas graves à intuber. Le chef de service, le docteur Éric Thibault.
Ça reste pour le moment une tendance visuelle. Ouais, il nous faut un peu plus de recul pour pouvoir affirmer qu'on a passé un cap, qu'on a passé un pic. Ce week-end, on a une petite baisse en effet en nombre de patients coronavirus et surtout, et c'est là que c'est pour nous le plus important, en nombre de patients graves.
Dans le Haut-Rhin, les écoles avaient été fermées et les déplacements limités une semaine avant le confinement du reste de la France. Les soignants espèrent que cette accalmie ressentie aujourd'hui en est le résultat direct, mais il faudra attendre 2 à 3 jours de baisse consécutive pour avoir la preuve que le Haut-Rhin a bien franchi le pic de l'épidémie.
Yannick Collant en Alsace pour RTL. Le Grand Est qui reste néanmoins la région la plus touchée du pays. Hier, la directrice de l'hôpital de Metz a supplié les autorités de lui accorder 12 transferts tous les jours pour répondre à l'afflux de malades dans des services de réanimation quasiment saturés. Trop de malades et pas suffisamment de matériel. Et c'est pourtant le nerf de la guerre, respirateurs et masques. Les soignants en manquent toujours. Des masques, justement, Emmanuel Macron se rendra dans la matinée du côté d'Angers chez le premier fabricant français, la PME Colmy Open, qui tourne 24 heures sur 24 depuis le début de la crise. Et puis, il y a toutes ces entreprises spécialisées dans le textile qui sont prêtes à fabriquer elles aussi des masques, des prototypes en tissu, alors qu'ils ne pourront pas servir aux soignants, mais qui permettront d'équiper les salariés qui continuent de se rendre au travail. 45 entreprises ont été sélectionnées par l'État pour participer à cet effort de guerre. Quelles sont-elles, Armelle Lévy ?
Eh bien, ces 45 entreprises reconverties en fabricants de masques. Parce qu'elles sont aussi bien de grands groupes comme Lacoste que de petites fabriques de t-shirts et marinières, en passant par des entreprises d'insertion professionnelle comme l'ADAPI à Vesoul. Toutes ont obtenu la validation de la Direction Générale de l'Armement pour produire désormais leurs propres masques alternatifs qui ne sont ni FFP2 ni chirurgicaux. Ils ne sont pas distribués au personnel de santé ni aux particuliers. Ce sont des masques filtrants de catégorie 1 et 2 en tissu. Ils sont conçus pour protéger tous les salariés, plombiers, auxiliaires de vie, policiers, caissières en contact avec le public. Certains sont lavables et donc réutilisables entre 5 à 10 fois, à condition de les laver à 60 degrés, de les sécher mécaniquement au sèche-linge et de les repasser de l'autre côté du filtre à 130 degrés. Les prix de ces masques sont libres, ils ne sont pas encadrés, mais ils coûtent entre 5 et 8 euros. Ils seront disponibles sur une plateforme d'achat stopcovid19.fr, réservée aux professionnels pour équiper leurs salariés.
Et 1 million de modèles pourraient être produits chaque jour d'ici la fin du mois d'avril.
8h04, et bien justement, à propos de ces salariés qui continuent d'aller travailler, le gouvernement avait évoqué une prime de 1000 euros.
Message entendu d'ailleurs par plusieurs groupes de la grande distribution qui ont promis la semaine dernière à leurs employés, à ceux qui se rendent physiquement sur leur lieu de travail, cette prime, sorte de bonus au mérite. Bonjour Martial You.
Bonjour.
Une bonne nouvelle ce matin pour ceux qui vont en bénéficier. Bercy laisse entendre que cette prime pourrait être même supérieure à 1000 euros.
Oui, on prolonge la prime Macron lancée l'année dernière dans la foulée des Gilets jaunes. Elle devient la prime Macron-Ronavirus, si vous voulez. Mais cette fois, la prime pourrait être modulable, comme on dit. Autrement dit, elle pourrait être supérieure à 1000 euros pour les travailleurs qui sont obligés de venir au bureau ou à l'usine pour travailler, les personnels soignants, les éboueurs, les caissières de supermarché, les personnes qui font le ménage ou les agents de sécurité, par exemple. Cela pourrait toucher plus de 1000 euros. Alors, pas le double quand même, hein, mais leurs collègues qui ont fait du télétravail pourraient, eux, avoir droit à une prime également, mais moins importante, donc inférieure à 1000 euros. Ensuite, le principe reste le même que l'an dernier. C'est une prime sans charge sociale, non imposable, et ce sont les entreprises qui choisissent de la verser ou pas.
Merci pour ces explications, Martial You. C'est donc la troisième semaine de confinement qui démarre. On l'évoquait en début de journal, des consignes dans l'ensemble bien respectées par les Français qui ont parfois des conséquences assez inattendues sur sur l'environnement. Bien sûr, personne ne se réjouira de rester enfermé chez lui, mais reconnaissons qu'en ville, par exemple, on entend de nouveau le chant des oiseaux, la qualité de l'air s'améliore, la nature reprend ses droits et pour certains, c'est une vraie délivrance. À Lyon, Frédéric Perruche.
Karim habite à moins d'un kilomètre des pistes de l'aéroport Saint-Exupéry et sa vie a changé. Fini le temps où 350 avions survolaient le ciel de la région chaque jour.
Il n'y a rien. Rien. C'est calme. Ça change la vie parfaitement. Ouais. C'est calme. On peut faire une sieste, on peut rester au jardin. Ça change, voilà.
Le périphérique lyonnais s'est également considérablement vidé et le résultat est spectaculaire pour Fanny, 68 ans, une riveraine qui revit.
Oh là là, c'est incroyable. Le bruit et surtout l'air. Quand j'ouvre au 7e étage, il n'y a plus la pollution et l'air est beaucoup plus clair. Mais c'est surtout le bruit, c'est incroyable. On s'entend, pour la première fois, on entend les oiseaux et on s'entend, nous, les gens, sur les balcons. Et puis les oiseaux.
Des oiseaux que l'on entend également gazouiller en centre-ville, désertés par les voitures.
Quand on entend les voitures, voilà, c'est presque gênant maintenant. On se fait au calme et au silence et c'est plutôt agréable. On entend les oiseaux, on entend rarement d'habitude à Lyon, surtout ici où la circulation est plutôt très dense.
La circulation a chuté d'environ 70% dans l'agglomération lyonnaise, ce qui entraîne une forte baisse des nuisances sonores, du même ordre et dans une moindre mesure de la pollution.
Reportage de Frédéric Perruche.
8h06, situation de plus en plus difficile à contrôler à New York où l'armée, vient d'envoyer un navire hôpital.
Amarré dans le port de Manhattan, il doit permettre de soulager les hôpitaux de la ville totalement débordés par l'afflux de malades. Avec ce chiffre incroyable mais qui permet de réaliser toute l'ampleur de la catastrophe sanitaire. Une personne qui meurt à New York toutes les 3 minutes du Covid-19. L'état du Michigan est également l'un des plus touchés. Cette infirmière débordée reconnaît qu'elle est obligée désormais de choisir les patients à sauver.
C'est effrayant, ça devient comme en Italie. Mon patient a pris le dernier respirateur disponible dans l'hôpital. Ça veut dire que nous allons prendre maintenant des décisions de vie et de mort. En arrivant, vous serez trié. Soit c'est nécessaire de vous intuber, soit vous rentrez chez vous pour mourir. C'est vraiment, vraiment angoissant. On doit décider de la vie et de la mort des gens.
Cette infirmière du Michigan au micro de Philippe Corbet. Et puis dans ce contexte de pandémie mondiale, cette annonce à peine croyable d'un responsable de l'écurie Red Bull qui a proposé ce qu'il a appelé une stratégie de contamination volontaire. Réunir tous les pilotes, faire en sorte qu'ils attrapent le Covid pour en être guéri avant le début de la saison de Formule 1. Heureusement que nous sommes le 31 mars, on aurait pu croire à un poisson d'avril. Jean-Michel Rascol.
La semaine dernière, Helmut Marko avait déjà critiqué les conséquences du confinement décidé par le gouvernement autrichien. Cette fois, il a franchi un cap en proposant d'infecter l'ensemble des pilotes de l'écurie Red Bull au cours d'un stage qui aurait réuni 10 juniors et les 4 pilotes titulaires et remplaçants de la Formule 1. Ils sont tous en excellente santé, a-t-il affirmé face caméra, et comme ça, ils seront prêts pour commencer la saison. Max Verstappen, qui aime pourtant piloter à la limite, n'aurait pas apprécié cette prise de risque inconsidérée et l'aurait fait savoir. Helmut Marko est un personnage aux multiples facettes, docteur en droit, mais pas docteur en médecine, visiblement, une des grandes voix de la Formule 1 dans les paddocks, mais un dirigeant sportif aveugle et inconscient face à la réalité de la pandémie.
Jean-Michel Rascol. Et puis, on n'est pas tous confinés à la même enseigne. Tenez, demandez aux Thaïlandais. Alors que le pays enregistre de nombreuses contaminations, que des émeutes éclatent dans les prisons, le roi a préféré, lui, fuir son pays, partir se confiner dans un hôtel de luxe en Allemagne, dans la sympathique station de ski de Garmisch-Partenkirchen. Et pour cette escapade, le souverain a pris soin d'emmener avec lui son harem, une vingtaine de concubines et des dizaines de domestiques. Ce qui n'a pas beaucoup fait rire les Thaïlandais restés au pays. On n'est décidément pas tous confinés à la même enseigne.
On ne sait pas non plus comment ont réagi les Allemands à Garmisch-Partenkirchen. C'était le journal de Dominique Tenza.
RTL Matin, Yves Calvi.
Direction les Hauts-de-France, à présent, nous attend Franck Hanson, le correspondant d'RTL à Lille. Bonjour Franck.
Bonjour.
La vague de l'épidémie est en train d'arriver. Les hôpitaux des Hauts-de-France sont plus que jamais sur le pied de guerre.
En effet, des services sous tension, surtout en Picardie. Le cap des 3000 cas et 200 décès vient d'être franchi dans la région. Selon les médecins nordistes, la situation reste néanmoins maîtrisée pour l'instant. Alors les hospitalisations augmentent rapidement. Dans la Somme, les entrées ont doublé en une semaine. Dans le département du Nord, cela a été multiplié par 4, avec plus de 500 malades, dont 180 en réanimation, essentiellement à Lille. Dans tous les services, on augmente donc régulièrement le nombre de lits disponibles dédiés au coronavirus, mais les places sont limitées. Limité actuellement, on a encore un peu d'avance, nous explique le docteur Christophe Boyer, le chef du pôle urgence au CHU d'Amiens.
Un patient qui rentre en réanimation pour une détresse respiratoire reste en réanimation en moyenne entre 15 et 21 jours. Actuellement, on est à 15 jours du début de l'épidémie, ce qui fait que dans une semaine, on aura les premiers patients guéris qui pourront sortir et ainsi permettre de libérer des places et de trouver un point d'équilibre. On s'organise pour que l'hôpital ne soit pas saturé. Pour le moment, on continue à faire face.
Les prochains jours seront déterminants. Le point de rupture pourrait être atteint entre le 4 et le 10 avril, estime l'Agence régionale de santé, qui lance un appel à la réserve sanitaire. Les professionnels, étudiants ou retraités peuvent s'engager pour soutenir les équipes en première ligne. Les indemnités des élèves infirmiers ont d'ailleurs été revalorisées par la région Hauts-de-France.
Et certains professionnels de santé sont toujours très inquiets du manque de matériel.
Oui, c'est le cas chez des généralistes, on en a déjà beaucoup parlé, mais aussi chez ces infirmiers libéraux qui se déplacent souvent chez des patients âgés, isolés pour les soins, pas toujours bien équipés, les masques arrivent au compte-gouttes. Yannick Carlu est infirmier libéral à Samé, près de Boulogne-sur-Mer.
Là, chacun fait comme il peut, et je sais que certains collègues utilisent des grands sacs plastiques qui coupent, ils se font deux petites manches et ça leur sert de protection. On en est à ce stade-là, ici. On bricole, mais on bricole avec les grands risques quand même. On est le dernier lien, mais on voit que nos patients ont de plus en plus peur de nous voir. On serait éventuellement porteurs aussi de cette maladie.
Dans ces établissements hospitaliers, comme dans les EHPAD, la solidarité des entreprises et particuliers permet toujours de tenir. Un réassort de 300 000 masques devait intervenir en ce début de semaine. Beaucoup de maisons de retraite aspirent à pouvoir faire des tests sur leurs résidents, qu'il faut désormais isoler. Enfin, Yves, pour terminer sur une note plus optimiste, un mois après les premiers cas dans l'Oise, près de 500 personnes hospitalisées pour Covid-19 sont aujourd'hui rentrées chez elles. Et guéri.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Franck Hanson, correspondant d'RTL dans le Nord. Dans un instant, nous serons en ligne avec l'épidémiologiste Catherine Hill. Le confinement donne-t-il ses premiers résultats? Je lui poserai la question. Puis on va s'intéresser aussi à l'appel lancé par nos agriculteurs. Il a été entendu puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à accepter ces Français.